Si je vous pose la question, bon, pourquoi vous êtes-vous marié, à vous qui êtes marié? Dans l'idée, je suppose, d'avoir une vie heureuse. Dans l'idée de bien vivre ensemble, de bien commencer ensemble, d'avoir une famille, et puis de vieillir ensemble. Évidemment, tout le monde veut le bonheur. Et comme l'a rappelé tout à l'heure, l'or, c'est dans la relation. La relation, c'est ce qui nous crée, ce qui nous donne du bonheur. Alors on se posait la question, mais pourquoi les couples, qu'est-ce qui se passe pour que les couples soient tellement mis à mal? Eh bien, je voudrais vous donner quelques points, si vous voulez, quelques points, et puis dans une deuxième partie, je voudrais ouvrir la parole de Dieu. Je voudrais d'abord commencer par dire, il y a une différence entre un couple heureux et un couple parfait. Ça va? Vous la faites avec moi, n'est-ce pas? Couple parfait n'existe pas, mais des couples heureux, oui, à certaines conditions. Et je voudrais vous donner peut-être quelques points sur j'appelle ça des secrets, mais il n'y a pas de secret forcément. La première chose que je voudrais vous dire, c'est l'importance d'investir un maximum dans la vie à deux entre les périodes conflictuelles. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu a uni un homme et une femme tellement différents l'un de l'autre qu'on se dit, mais c'est impossible. C'est impossible de concilier ces deux entités. Quelqu'un a dit qu'ils sont venus de deux planètes différentes. Vous connaissez bien ça, n'est-ce pas? Mars, Vénus, peu importe, mais on est tellement différents. Alors, au début, on ne s'aperçoit pas tellement de nos différences. Très rapidement, oui, bien sûr. Mais pas au début. Parce que le sentiment d'amour est tellement là, et puis le désir de... Oui, le sentiment... Et puis on investit beaucoup, c'est vrai, là. Mais très rapidement, on s'aperçoit qu'on est différent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La première chose qu'on va faire, on va dire à l'autre, il faut que tu sois comme moi. Et on va essayer cela, et on va se casser les dents. Parce que l'autre, il ne va pas vouloir, il va résister à changer. S'il y a un principe qui est très clair, on ne peut pas changer l'autre, on n'y croit pas. Donc on essaye des années, de changer l'autre. Bon, si vous voulez ne pas me croire, continuez à essayer de changer, encore quelques années. Si vous voulez, mais ça ne va pas marcher. Je vous le dis, j'ai essayé, ça ne marche pas. J'essaye encore parfois quand je ne m'en souviens plus. Vous voyez, au lieu de voir nos différences comme quelque chose qui m'oppose à l'autre, je pourrais me poser la question pour dire, mais comment, pourquoi Dieu nous a fait tellement différents? Et tout à coup, je vais m'apercevoir que nous sommes complémentaires et je vais dire, mais au lieu de m'opposer aux différences de ma femme, je vais dire, mais vive la différence! La différence de l'autre va m'enrichir. Et va m'enrichir des choses que je n'ai pas. Enfin, je ne veux pas trop parler des différences. Je parle des différences parce que les différences, c'est source de conflits. J'ai des différences de point de vue sur l'argent, j'ai des différences de point de vue sur l'éducation des enfants, j'ai des différences de point de vue sur comment aborder la question de la sexualité, j'ai des différences sur la vie, j'ai une autre vision des mondes. C'est normal, je suis un homme, elle est une femme, j'ai ma famille, elle a sa famille. Voilà, toutes ces choses-là font que nous sommes différents. Et ces différences font que nous arrivons en conflit. Est-ce que je suis le seul ici? Non. Rassurez-moi. Alors, si vous voulez, on fait beaucoup de formations sur la communication. C'est bon, Laure, je ne sais pas où tu es, mais c'est bon, fais tes formations là sur la communication. On fait beaucoup de conférences sur la gestion des conflits. C'est bon, faites-les. Mais je dirais, Je dis, j'en ai fait, moi, des années. Ça ne marche pas trop, quand même. Ça ne marche pas trop. Je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas trop. Parce que quand on est dans le conflit, qui c'est qui va me donner la puissance pour ouvrir ma bouche? Quand ma femme me dit, Bertrand, tu ne parles pas, tu ne me dis pas ce que tu penses, ce que tu... Et quand on est dans le conflit, elle voudrait bien que je lui parle. Eh bien, moi, non. Je rentre dans ma grotte. Et je m'enferme et je boude. Et je la punis. Et pourtant, j'ai suivi tous ces cours de communication. Je sais qu'il faudrait ouvrir ma bouche. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il me manque la puissance. Il manque la décision. Qui c'est qui va me donner cette puissance pour dire, attends, Bertrand, aime ta femme. Ah non, je m'aime moi-même d'abord. Ça ne va pas. Écoutez, ce qui marche le plus chez nous, je vais vous le dire, c'est quand j'ai un conflit là, et qu'il y a un deuxième conflit là, et un troisième conflit là, je sais que les conflits viennent. Je sais que les conflits viennent, puisque nous sommes différents. Et puis, écoutez, un ménage, un couple sans conflit, ça n'existe pas. On le saurait. Je faisais une réunion d'hommes. Chez nous, en Alsace, je faisais une réunion d'hommes, 30 hommes qui étaient là. Et puis, mon ami qui nous avait invités, le pasteur de l'église, là, nous avait invités. Et puis, on parlait justement de notre vie de couple et tout. Juste des hommes, hein, juste des hommes. Et puis, lui, il dit, « Ah, moi, ça fait 22 ans que je suis marié. Et avec ma femme, on n'a jamais eu un conflit. » Alors là, je l'ai regardé, j'ai dit, « Oh, le mec !» « Bravo !» Et puis après, je me dis, qui est mort dans le couple? Qui est mort dans le couple? Parce que forcément, quand on est deux, on va avoir des conflits. Je reviens à mon image. L'idée principale, vous allez voir, ce n'est pas de la haute psychologie, c'est pas de la haute... Il ne faut pas faire des hautes études pour ça. C'est, vous avez un conflit, vous avez un deuxième conflit qui va venir, vous ne savez pas quand, mais pendant la période où ça va bien, c'est là où il faut investir. Vous m'avez entendu? Pendant la période où ça va bien, pendant la période où vous êtes vraiment des amis, alors là, vous investissez. Vous investissez du temps, vous investissez de la parole, vous investissez un maximum. Et c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Quand ça va bien, vous êtes en couple, ça va bien en ce moment, alors vous investissez. Vous invitez votre conjoint, vous prenez des rendez-vous pour parler ensemble, vous sortez ensemble, vous êtes en face à face ensemble. Il faut absolument investir. Mais investissez quand ça va bien entre les crises. Pourquoi? Parce que ça va vous donner un maximum de plaisir. Pourquoi? Parce que la relation donne du plaisir. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, c'est le bonheur. La relation, c'est le bonheur. Alors, vous avez un maximum de temps avec... Vous partagez un maximum, vous investissez dans ce temps tranquille avec votre conjoint. Et quand le conflit vient, parce qu'il va venir, ça va être tellement désagréable et que vous avez tellement eu de plaisir que vous allez vite le gérer. Donc le conflit, au lieu que ça traîne sur des jours et des jours, voire des semaines, vous allez faire de sorte que le soleil ne se couche pas, comme dit l'apôtre Paul, sur votre colère. Le pardon va venir et le temps du conflit sera raccourci. Alors on rentre dans une nouvelle période calme. Eh bien, investissez, investissez, investissez. C'est compliqué? C'est du bon sens. C'est que du bon sens. Et pourtant, ça marche. C'est l'unique moyen de maintenir une relation. C'est l'investissement dans votre couple. Et tout est contraire. Tout veut nous prendre ce temps-là. Pourtant, on s'est marié pour cela. Si je vous posais la question, pourquoi vous êtes-vous marié? C'est pour avoir ce temps. Ce temps de bonheur avec votre conjoint. Comment ressusciter une relation? Investissez dans ce temps de tranquillité, pendant que c'est calme. Comment prévenir de la rupture? Eh bien, c'est encore en investissant. Investir dans des périodes qui sont justement en dehors des périodes conflictuelles. Ce que je suis en train de dire, c'est que tout est basé sur le renforcement de l'amitié dans le couple. Alors vous savez, nous n'avons qu'un mot pour parler de l'amour. On parle de l'amour agapé. Là, on connaît bien, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime, et nous aime depuis quand? Depuis qu'on va à l'église? Non. Depuis qu'on est converti? Non. Il nous aime depuis toujours. Il n'attend rien en retour. Il nous aime. Point. Point. C'est fini. Il nous aime. C'est l'amour agapé. Et nous pouvons, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, dans le couple, nous pouvons vivre cela. Mais il y a un autre terme pour l'amour, c'est philéo. Vous connaissez bien cela. Et philéo parle davantage du concept de l'amitié, de la complicité. Eh bien, ce sentiment philéo, là, cet amour philéo, c'est la base de toute relation amoureuse. Il y a dans nos couples ce côté philéo. On devient les meilleurs amis du monde. Ma meilleure amie, c'est ma femme. Mon meilleur ami, c'est mon conjoint, mon mari. Quand je parle d'amitié, il faut penser profond respect et le plaisir d'être en compagnie de l'autre. Évidemment, je n'ai pas parlé, évidemment, il y a un troisième terme sur le mot amour, qui est le mot eros, qui donne le côté sexuel de la relation. Écoutez, je veux vous donner quatre points rapidement. Je vais parler des secteurs d'investissement. Je pensais que pour un public suisse, ça pouvait se comprendre plus facilement. La première chose, c'est je vais parler de enrichir sa carte du tendre. Et là, je vais parler aux hommes. Je vais vous parler à vous parce que on n'a pas eu l'habitude d'exprimer nos émotions. On n'a pas eu l'habitude de dire quand ça fait mal ou quand on a mal ou quand parce qu'on est des hommes. On nous a dit, j'ai déjà vu un petit garçon tomber et la maman lui dire « Ne pleure pas, t'es un garçon ». C'est une ineptie, c'est vraiment... Mais quand même, on a entendu ce genre de message, un homme c'est fort, etc. etc. Et donc, souvent, on ne parle pas de nos émotions. Or, nous nous sommes mariés pour avoir un niveau de communication au niveau des émotions. Bien sûr, dire bonjour, être poli, respecter, tout ça c'est important. Mais il y a un niveau qui est le niveau pour lequel on s'est épousé, on s'est marié. C'est ce niveau de profonde communication, où on s'ouvre, où on peut se rendre vulnérable. Mais il y a une condition. C'est laquelle? La sécurité. Nous les hommes, mesdames, on a besoin de sécurité. On a besoin d'être sûr que si nous nous ouvrons, eh bien, ça ne va pas un jour de conflit nous revenir comme un poignard dans le dos. Il nous faut absolument de la sécurité. Mais c'est à ce niveau-là que nous voulons être dans notre couple, au niveau de l'expression de nos émotions, le partage profond et vivant avec l'autre. Tout le reste de la communication est important, mais on s'est marié pour cela, pour cela. Vous savez, on distingue différentes sortes d'intelligence. On a beaucoup mis dans les décennies passées l'accent sur le QI, quotient intellectuel. Et on a dit, bon, voilà, c'est le quotient. Quand on est, il y a l'intelligence intellectuelle, l'intelligence, voilà, ça c'est la chose à avoir. Bon, si tu es bête, bon, tu es bête, quoi, c'est dommage pour toi. Mais ça, c'était ce qui a été mis en valeur dans notre société pendant des décennies. Et puis, il y a aussi l'intelligence pratique, c'est-à-dire, je ne sais peut pas comprendre tout, mais la pratique, là, ça, c'est une intelligence. Ça, je sais faire ça, pratiquement. Et puis là, récemment, on parle d'intelligence relationnelle. Là, des gens qui sont capables d'être en relation avec l'autre, d'écouter l'autre. L'autre se sent exister dans votre regard. Ça, c'est de l'intelligence relationnelle. Et puis, l'apôtre Paul parle même d'intelligence spirituelle. Colossiens chapitre 1, verset 9. En toute intelligence spirituelle. Ah, il y a une intelligence spirituelle. On la développe comment, celle-là? Bon, on n'a pas le temps maintenant, mais c'est important d'y penser. L'intelligence relationnelle. Bon, l'intelligence intellectuelle, on sait, on fait des études. L'intelligence relationnelle, ça se travaille aussi. Comme l'intelligence spirituelle. Mais il y a encore une intelligence qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité de pouvoir dire à quelqu'un de confiance ce que je peux ressentir. Pourquoi ? Parce que la communion, elle est là. Là, nos âmes se lient, parce qu'on parle de soi, du plus profond de nous-mêmes. Nous sommes vrais, nous sommes dans la transparence, nous sommes à cœur à ce moment-là. Et bien, vous savez, les couples émotionnellement intelligents, je vais dire ça comme ça, eh bien, apprennent à connaître l'univers de l'autre. Ils vont réserver un large espace à leur vie à deux. Les événements marquants, on va le savoir. Les préférences alimentaires, les aspirations secrètes, les valeurs profondes de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on aura investi du temps, de l'écoute, on va être à ce niveau de partage. On va aussi savoir les craintes et les espérances ou les espoirs de l'autre. Vous savez, le fait d'être ensemble comme cela, eh bien, en s'informant des sentiments et des émotions de l'autre, ça va permettre au couple à traverser des circonstances difficiles. Le deuxième point que je voudrais vous proposer, c'est cette culture de la tendresse. La tendresse qui se cultive. La Bible dit dans les Proverbes, ce qui attire chez un homme, c'est sa bonté. Si je vous demande, mesdames, qu'est-ce que vous attendez le plus de votre mari, ça sera probablement la tendresse, la gentillesse, la bonté. Oui ou non ? C'est ça, c'est ça. C'est universel. Dans l'épître aux Philippiens, Paul dit « parler la vérité dans l'amour ». Ça veut dire quoi ? Nous, on pense vérité, vérité, c'est vérité doctrinale, n'est-ce pas ? Tac, il ne faut pas. Non, la vérité dans l'amour, c'est-à-dire d'exprimer aussi ce qui est dans notre cœur avec vérité. C'est aussi nos émotions avec vérité. Ça se travaille, ça. Travailler, cultiver la tendresse et l'estime réciproque. C'est la vérité de nos émotions, je l'ai dit tout à l'heure, de la transparence, de l'honnêteté, et parler justement avec mon conjoint dans l'amour. C'est juste cette expression de nos sentiments. Quand nous sommes tendus émotionnellement, quand il y a un sentiment de colère, la peur, la déprime, écoutez, on doit en parler quand même. Ce n'est pas forcément le moment de prendre des grandes décisions, mais on doit en parler. Quand on dit cultiver, ça veut dire qu'on doit prendre le temps de faire ce qu'il faut faire pour que la tendresse puisse émerger, puisse être vécue et développée. Alors, un troisième point que je voudrais vous proposer, c'est de se tourner l'un vers l'autre au lieu de se détourner l'un de l'autre. Vous savez, quand il y a un conflit, on a tendance à vouloir camper sur nos positions. On dit, c'est moi qui ai raison. Elle n'a qu'à le reconnaître. Et puis, elle n'a qu'à revenir demander pardon. J'ai l'impression que ça... D'accord, je ne veux rien dire. Mais c'est ça. Et donc, on campe sur nos positions. Et puis, finalement, chacun va de son côté. Je voudrais dire que qu'est-ce qui va faire que nous allons nous tourner l'un vers l'autre? Et là, je vais parler un peu de cet investissement. Ce sont tous ces petits gestes anodins de toute la journée. Si vous voulez faire une croisière en Méditerranée, allez-y, 15 jours, c'est bon, c'est toujours bon à prendre. Et ça ne va pas faire la transformation de votre couple. Allez aux Bahamas si vous voulez. Mais qu'est-ce qui va changer votre couple? C'est tous les jours. C'est tous les jours une parole. Une parole qui soutient, une parole de grâce, une parole qui encourage. C'est tous les jours un petit mot pour lui dire que vous pensez à elle ou vous pensez à lui, un post-it. Bon, changez la phrase quand même, hein. Ça demande une minute de plus, mais de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est aussi des gestes, c'est prendre dans ses bras, c'est embrasser, c'est caresser, c'est ça, des gestes anodins. Mais c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est une activité ensemble, c'est un travail ensemble, on fait la vaisselle ensemble, on fait le ménage ensemble, on fait les courses ensemble. C'est ça l'investissement. Et on m'a demandé d'être pratique, excusez-moi, je le suis un petit peu, mais c'est important, c'est important. Vous investissez, vous tournez l'un vers l'autre. Chacun de ces gestes, avec chacun de ces gestes, vous faites savoir à l'autre qu'il est important, qu'il compte à vos yeux, que vous tenez à lui ou à elle dans le train-train quotidien, et c'est ainsi que vous entretenez la flamme de votre amour. Le fait de se tourner vers l'autre, c'est la base du lien affectif, de l'amour, de la passion et d'une vie sexuelle épanouie. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, je parle souvent, vous connaissez certains livres, là, mais là, aujourd'hui, je vais parler du compte d'épargne affectif, au lieu de parler du réservoir émotionnel. Mais le compte d'épargne affectif, vous investissez là, et ça va grandir. C'est ça qui fait la relation de tous les jours. Le secret, donc, est de se retrouver dans les petits détails de la vie en offrant de l'attention, de l'affection, de l'humour, si possible de l'humour, parce que la vie est joyeuse, et puis du soutien. Pour cela, vous devez vous focaliser sur ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vie de couple et non pas sur ce que fait ou devrait faire l'autre ou ne fait pas l'autre. Dans une vie de couple, la théorie donnant-donnant, ça ne marche pas. J'ai entendu, un homme est venu me voir, un homme âgé, 80 ans, pardon, comment vous dites ici ? 80. Et il vient me voir, et un frère, n'est-ce pas? Et il dit, c'est impossible à la maison. Il dit, maintenant, si ma femme ne vient pas vers moi, si ma femme ne me parle pas gentiment, je ne lui parle pas gentiment. Ça, c'est du donnant-donnant. Ça ne fonctionne pas. Abandonnez ça. Ce n'est pas du tout dans la pensée biblique. L'amour agapé, on donne sans attendre de retour. L'amour donnant-donnant, ça ne marche pas, ça n'existe pas. On n'est pas dans ce principe-là. Du tout, du tout. Ce que je voudrais dire aussi, se tourner l'un vers l'autre au lieu de se détourner l'un de l'autre. Je veux juste vous donner, vous connaissez la minute du matin et la minute du soir? La minute du matin, c'est un exercice que je vous donne à faire, si vous voulez. Essayez-le 15 jours. Si ça ne marche pas, vous arrêtez. Je suis assez sûr de mon truc. Le matin, quand vous vous levez, monsieur ou madame, vous prenez votre conjoint dans les bras. Une minute, pas plus. Maximum une minute. Prenez dans les bras et vous lui dites que vous l'aimez, que vous êtes très content qu'elle soit la femme de vos, la mère de vos enfants, et que, ou bien le père de vos enfants, voilà, réciproquement. Vous l'embrassez, vous la caressez, une minute. Qu'est-ce que vous êtes en train de lui dire comme message ? Vous vous tournez vers elle, vous vous tournez vers lui, vous êtes en train de lui dire que vous l'aimez, que vous l'acceptez comme elle est ou comme elle est, que vous lui la reconnaissez, vous lui donnez de la sécurité et vous lui donnez de l'attention. Son compte d'épargne affectif, il augmente. Le soir, une minute. Bon, plus si affinité, n'est-ce pas ? C'est comme vous voulez. Mais vous refaites la même chose. Vous refaites la même chose. Et vous allez voir. Et vous allez voir. Ça change. Ça change la vie. Pourquoi ? Parce que le message est passé. L'autre s'intéresse à moi. C'est ça, se tourner vers l'autre au lieu de se détourner de l'autre. Vous allez essayer ? Vous allez voir que ce n'est pas si facile. Je sais que les hommes vont avoir tendance à oublier. Je sais aussi que vos épouses vont vous le rappeler. Essayez. Je dois me dépêcher et je ne peux pas. La dernière chose que je voudrais vous laisser comme point, c'est laissez-vous influencer par votre conjoint. Écoutez, messieurs, pour qu'un couple puisse s'épanouir, il est nécessaire de partager le siège du conducteur. Ça va ? Et nous, les hommes, on résiste à ça. Parce que si je peux conduire, je contrôle. Il y a des dames qui disent oui. Et c'est ça. Eh bien, écoutez, changez d'optique et pensez que... Et si vous vous laissiez influencer, votre femme n'est pas menaçante comme ça quand même, pour résister et ne pas vous laisser influencer par elle. Accepter l'influence de sa femme, c'est lui faire sentir qu'on l'honore et qu'on la respecte. Et les femmes, des hommes qui acceptent de se laisser influencer par elle, ces dames-là, sont souvent moins acariâtres et elles font pas de démarrage en trombe, pas de démarrage brutaux, elles sont plus tranquilles. Elles montent pas dans les tours, c'est ça comme ça qu'on dit quoi. Je sais pas comment on dit. Ça va, ça se dit ça ? Je vais arrêter parce que j'ai un temps aussi, j'ai un temps de limite et je veux aller au bout. La question que je vais vous poser, c'est celle-là. Est-ce que nous sommes capables ? C'est pour ça que je dis, faire des formations, faites des formations. Mais les formations ne vous donnent pas la puissance. Ça va vous donner des outils, c'est bon, mais ça ne va pas vous donner la puissance. La puissance, elle est dans la parole de Dieu, elle est découverte dans la parole de Dieu, et la puissance, elle réside en Jésus-Christ ressuscité qui vous habite, et qui vous dit qui vous êtes. Et je voudrais juste lire ce verset, n'est-ce pas, de Colossiens chapitre 3, verset 12, et vous allez voir que c'est assez exceptionnel. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et donc, je voulais simplement dire, parce que nous sommes des élus de Dieu. Parce que nous le sommes, n'essayez pas de le devenir. Vous avez reçu le Seigneur, vous êtes élus de Dieu. À cause de cela, nous pouvons vivre ce que l'apôtre Paul nous propose. Parce que nous sommes des saints. Parce que nous le sommes. La conséquence, c'est que nous pouvons marcher dans la sainteté. La conséquence, c'est que comme nous sommes des bien-aimés enfants, on peut marcher dans l'amour. Pourquoi ? Parce que nous sommes nous-mêmes aimés. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « N'essayez pas de faire ces choses, de la douceur, du support, du pardon. Ça ne marche pas, à moins que ça vous soit donné par Dieu et ça vous est donné par Dieu parce que vous êtes dans sa faveur, vous êtes saints, vous êtes des élus de Dieu et vous êtes des enfants bien-aimés. À cause de cela, vous êtes capables de revêtir l'amour. » Est-ce qu'on est avec moi ? Ça fait du sens ? C'est ça la clé de notre vie chrétienne. C'est parce que je suis un enfant de Dieu, un enfant bien-aimé, je peux vivre et je peux exprimer la vie qui est dans le Christ et le Christ qui m'habite. Ce verset, il a transformé ma vie. Et maintenant, si vous voulez, à cause de ce que Christ a fait de nous, alors nous sommes capables de nous revêtir d'entrailles de miséricorde. C'est une décision. On peut toujours prendre nos anciennes habitudes, ce que la Bible appelle la chair. Comme j'ai vécu avant, je peux toujours, j'ai toujours le choix. Mais l'apôtre Paul dit, à cause de qui vous êtes aujourd'hui, décidez aujourd'hui de vous revêtir de la vie de Christ. C'est-à-dire que aujourd'hui, je décide d'aimer ma femme. Est-ce que l'amour est une décision ? Évidemment. Évidemment. Je décide de la bonté envers ma femme, envers mon mari. Je décide de me rendre humble. C'est difficile l'humilité, hein ? C'est très compliqué. Décidez d'être humble. Vous avez déjà essayé ? Faites-le déjà avec le Seigneur. Seigneur, pour la journée d'aujourd'hui, je me rends humble devant toi. Vous allez voir, vous allez voir. Ça fonctionne. De la douceur, ça se décide. Notre caractère peut changer. Pourquoi ? Parce que nous avons changé de statut. Nous ne sommes plus dépendants de nos propres ressources, nous vivons de la vie de Christ. Nous sommes élus de Dieu, nous sommes saints, nous sommes des enfants de Dieu, nous vivons par la vie de Christ et il nous donne la compétence, la capacité de décider de ces choses-là. Je peux décider de la patience, du support, du pardon, comme il nous l'a dit. Alors il dit, non, mais je veux bien pardonner, mais c'est trop difficile. Je suis désolé avec vous, Dieu ne vous demande pas si vous êtes capable. Il vous dit, pardonne. Et vous dit, de toute façon, vous êtes capable. Pourquoi ? Parce que la vie de Christ est en vous. Écoutez, si Christ est ressuscité, c'est bien pour vivre en nous et faire de nous ces nouvelles créatures et que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Ça, c'est la nouveauté de vie. Nos couples vont durer parce que nous collaborons avec Christ dans nos couples. Nos couples vont bien vivre et nous serons satisfaits de notre vie de couple parce que justement, nous allons vivre de la vie de Christ et il nous donne la puissance pour cela. Je ne peux pas vous laisser sans un exercice. Même si vous n'êtes pas en couple, prenez une feuille si vous voulez bien. Même si vous n'êtes pas marié, vous pouvez prendre une feuille. Si vous n'avez pas de feuille, il y en a encore ici. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît ? Je vais vous donner les consignes, les unes après les autres. Voilà, vous avez la feuille qui vous a été distribuée. Et là, on n'a pas trop de temps, mais si vous avez un item que vous pouvez écrire tout de suite là sur cette feuille, et vous qui n'êtes pas marié, pensez à une personne qui vous est chère. Pensez à une personne, vous mettez le prénom de cette personne sur cette feuille, et puis commencez à la remplir. Une chose. Ce que j'apprécie en toi. Bon, si peut-être c'est trop, parce que le temps est très serré, mais je vous donne quand même comment faire la chose. Vous mettez le prénom de votre conjoint, vous répondez, voilà, si vous en avez jusqu'à 10, c'est bien, si vous en avez 3, c'est bien aussi. Et donc, répondez ce que j'apprécie en toi et les sentiments que cela me fait éprouver. Voilà. Mais à ce stade, vous êtes avec moi. On passe à la troisième consigne. Je voudrais que vous vous tourniez maintenant vers votre conjoint et que vous preniez un rendez-vous pour échanger les feuilles. Tout de suite, là. Jean-Jacques, prenez rendez-vous si vous voulez. Ça dure une minute, le rendez-vous. Non, la prise de rendez-vous. Le rendez-vous, une heure. Ça y est? Vous êtes convenus du rendez-vous? Attendez, les filles, attendez. On n'a pas fini la rencontre, mais est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes convenus d'un rendez-vous? Nathanaël? D'accord. Jean-Paul? D'accord. Je vérifie. Jean, mon cousin bien-aimé? D'accord. Le rendez-vous va durer à peu près une heure, mais comme vous voulez, n'est-ce pas? Et vous allez être prêt en ayant rempli cette feuille et vous allez à ce rendez-vous galant avec la feuille. Le contexte du rendez-vous vous appartient, n'est-ce pas? On ne va pas tout contrôler. Et donc maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est, avant le rendez-vous, de compléter les feuilles une fois à la maison. Je vous demande de le faire. Je vous demande de le faire parce que c'est peut-être le début de plusieurs rendez-vous. Et ça va être un moment de partage. C'est un investissement que vous êtes en train de faire. Alors, je sais que peut-être certains d'entre nous ou certains d'entre vous, vous êtes un peu dans des tensions juste là. Vous ne pouvez pas imaginer vous retrouver à échanger ces feuilles avec les tensions actuelles dans votre couple. Je dirais ceci. Mettez ces tensions entre parenthèses si vous pouvez. Et faites ce rendez-vous et réglez les tensions après. Je pense que ça va beaucoup aider à régler les tensions. La dernière chose que je vous demande, c'est de respecter l'engagement que vous venez de prendre en prenant ce rendez-vous. On va s'arrêter là. Je sais que c'est allé très vite. Mais vous avez compris le principe que je voulais énoncer, c'est il n'y a pas de raison que nous vivions dans la médiocrité au niveau de nos couples. Il n'y a pas de raison. Ce n'est pas notre destinée, cela. Notre destinée, c'est de bien vivre ensemble, d'être un couple heureux, mais ça dépend de nous et ça dépend de l'investissement que nous et de l'investissement que nous y faisons dans notre couple.